Cascodeur Podcast, épisode 191. La quête du Graal, VM. Enregistré le 14 juin 2018. Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 191. Nous sommes le 14 juin. Voilà.
Et on est en tête à tête.
Avec Guillaume et Emmanuel, donc en tête à tête. Et on va vous parler des news des vrais.
Et tu veux dire qu'ils nous ont tous abandonnés, les autres?
Ouais, c'est un petit peu la Bérézina.
Ouais, style. C'est plus ce que c'était.
Voilà, entre Vincent qui attend que tout le monde ait répondu pour mettre « Ah bah je suis dispo que quand il n'y a personne, ah, c'est dommage. Hein. » Entre Audrey qui a un démarrage sur les chapeaux de roue, Antonio qui a un projet perso sur les chapeaux de roue aussi.
Ah oui.
Et Arnaud qui revient de travailler sur les chapeaux de roue et qui a besoin de se poser un petit peu. Voilà, je crois que c'est ça. Hein. On vieillit quoi en gros.
Et ouais.
Il y a plein de nouvelles, donc on va se lancer dedans. Avant, il y a une petite correction. Alors, sur un épisode, il y a longtemps, dans une galaxie très lointaine,
far away,
on a parlé de Spring Boot 2 et de ses performances, parce que quelqu'un avait écrit un article sur Spring Boot 2.
Un article
sur l'utilisation via la servlet bloquante classique versus Webflux et le Reactive Stack. Et donc il y a sur les cascodeurs la mailing list quelqu'un qui répondait à Nicolas Labro. Alors attention, c'est à prendre avec des grosses pincettes parce que le client HTTP qui a été utilisé pour la version servlet, c'est celui par défaut de Java à base d'URL connexion et du coup pas de réutilisation de la connexion, il n'y a pas de pooling. Et donc pour lui, 2500 users sur le benchmark IO avec un tel ratio de web processing, il devrait pas y avoir une telle différence de throughput. Donc pour lui, attention à ce benchmark. Donc on sait très bien que les benchmarks c'est toujours un petit peu difficile et on demande toujours aux gens tester sur votre propre appli, mais on peut jamais le faire parce que on l'a pas encore écrite. Mais enfin, c'est toujours le problème. Mais voilà, donc on voulait mettre un petit rappel là-dessus.
D'accord.
Voilà. Sinon on va se lancer sur les langages. Alors premièrement, il y a je sais pas si on en avait déjà parlé, mais il y a Oracle qui a lancé une nouvelle machine virtuelle qui s'appelle Graal. Alors, elle a plusieurs noms, mais Substrate VM, Graal VM, ouais. On la connaît en tant que Graal VM, qui fait plusieurs choses. La première, c'est que elle est censée être polyglotte. C'est-à-dire qu'on peut faire marcher dans la même VM du code C, du code Ruby, du code Python, du code Java, du code JavaScript, et ils sont censés interopérer magiquement.
Alors, wow. Je sais
pas exactement comment ils font, donc ça c'est un point intéressant, mais j'ai pas creusé parce que c'est pas la fonctionnalité qui m'intéresse le plus. C'est censé améliorer les performances, mais ça on va voir pourquoi. Et le pourquoi, c'est que au lieu de dire je fais de la compilation à la volée comme Java, c'est-à-dire je démarre avec l'interprétation et puis je compile les morceaux de code qui sont intéressants comme Java, et ben là ils font ce qui s'appelle ahead of time compilation, donc compilation en avance. En fait, la compilation à l'ancienne, hein, tout simplement. Mmh. Et donc, ils prennent votre application plus la VM et ils en compilent un binaire natif.
Quoi.
Voilà. Mmh. À ma connaissance, c'est un petit peu ce que fait C#, mais je dis peut-être une bêtise.
Ah, je sais pas comment fait C#. Mais du coup, oui, ce qui est intéressant, c'est cet aspect binaire.
Ouais.
Après, est-ce que la performance, que le JIT, malgré tout, l'idée, c'est justement d'optimiser en fonction du vrai usage du code en live.
Voilà.
Est-ce que, tu sais, asymptotiquement, est-ce que le JIT sera pas quand même plus rapide que...
Alors, je pense que si tu parles à Rémi, il va te dire, bah ouais, c'est sûr qu'on va juste leur péter la gueule et les mettre derrière. Je pense que les cas d'usage sont différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un univers où on containerise sa grand-mère, et du coup l'espace mémoire utilisé par les applications, c'est une étape importante parce qu'on a augmenté la densité des applications par machine, en fait, à cause des containers. Donc déjà, avoir un truc qui consomme moins de mémoire, et donc ce JIT, tout ça, garder les statistiques en
Et qui
mémoire,
démarre
faire le
plus
garbage
rapidement
collector en
aussi.
C2 et machin, voilà, ça prend du temps. Et l'autre étape, exactement ce que tu dis, c'est que il faut maintenant, les gens, ils veulent que ça démarre très vite. Et du coup, quand on a un binaire, eh ben, ça démarre très vite, plus rapidement que ce que la
Immédiatement,
VM
ouais.
fait aujourd'hui. Donc, je pense que ce sera des cas d'usage un peu différents. C'est-à-dire que dans les déploiements classiques, on met sur du mère bêta la JVM, ou enfin sur une machine virtuelle avec pas mal de mémoire, etc. Je pense qu'on restera sur le hotspot. Par contre, GraalVM, dans l'univers des containers, je pense que ça pourrait être intéressant.
Effectivement. Après, nous, le côté Groovy, on regarde. Enfin, parce que Graal, c'est pas tout nouveau. Hein, c'est déjà plusieurs années qu'ils bossent là-dessus.
Ouais.
Graal et Truffle. Là. Et par contre, on a quand même un petit souci qui nous embête, c'est au niveau de la licence. Alors, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est une sorte de GPL ou LGPL, je sais plus trop. Et du coup, on peut pas forcément l'utiliser. Réaliser quelque chose qu'il l'utiliserait pour Groovy par exemple, parce que nous on est en licence Apache et qu'on ne peut pas MBD intégrer compiler contre du code GPL LGPL.
D'accord,
Donc on a
c'est
des
intéressant, tiens.
petits. Ouais. Alors là, ces articles-là ne le mentionnent pas, je ne sais pas trop s'il y a des articles qui couvrent cet aspect-là. Mais du coup, nous on aimerait que ce soit un peu plus ouvert de ce point de vue-là, quoi. Et je pense pas que Oracle ait vraiment envie de
Non,
changer ça.
on en parlera après, mais ça n'a pas l'air d'être la tendance.
Ouais.
En tout cas, aujourd'hui, il y a une édition communautaire, donc avec. À vérifier la licence open source si elle est correcte pour vous. Il y a une version entreprise
Ben voilà.
qui est gratuite pour les évaluations, etc. Et puis pour un usage commercial et les supports options, bon bah faut aller voir Oracle.
Ouais.
Il y a des choses en plus, je me rappelle plus le détail, mais en tout cas la première version qui a été sortie ne supporte que Linux en version communautaire. C'est juste qu'ils ont eu des problèmes pour faire leur release en gros, et que je pense que les versions d'après de ce qu'ils ont dit allaient supporter OS X, enfin les autres
Après, donc, il y
systèmes
a encore quand
d'exploitation.
même des limitations hein, aussi. Tout, enfin, j'allais dire binaire, je vois. Toute application Java ne fonctionnera pas forcément, parce que je sais qu'ils n'ont pas non plus tout implémenté. Je ne sais pas si un des articles qu'on a mis dans les liens couvre ça, mais je sais qu'il y a quelques limitations de choses. Par exemple, tout ce qui est method handles, invoke dynamic, tout ça, par exemple, je crois que c'est pas couvert, si je dis pas de bêtises. Je sais que j'ai vu un article qui listait les différences.
Ouais.
Donc, en tout cas, il faut vraiment bien tester son application avec Graal si on veut l'utiliser, quoi, pour être sûr qu'on n'ait pas de mauvaises surprises à un moment ou à un autre.
Ouais, attends, j'essaie de trouver parce qu'il y avait un article qui montrait bien ce qui était supporté ou pas. Je crois que c'est
C'est
sur
peut-être juste
leur.
sur le site de Graal, en fait.
Ouais, c'est sur le site de Graal, mais je crois que c'était sur un wiki. Voilà, si on fait une invoke, qu'est-ce que soit qu'utilise une invoke dynamique, ça va pas fonctionner. Si on utilise de la réflexion, il faut écrire dans une liste en fait toutes les classes et je sais plus s'il y a les méthodes aussi, mais sur lesquelles on va faire de la réflexion parce qu'en fait ça précalcule bah, à la compilation les appels de réflexion et du coup le modèle des classes parce que ça va pas. Ah oui, ça ne peut pas charger une classe qui n'est pas compilée, c'est-à-dire que si des classes qui sont faites à la volée, eh ben si les classes qui sont compilées, enfin qu'on construit à la volée, alors j'imagine vous manipulez du bytecode, etc. Donc tout ça, c'est pas forcément, enfin en tout cas le Groovy non plus plus. Là, je sais plus comment vous appelez ça, là, celui qui est compilé.
Ouais, non, bon, c'est le mode, la compilation statique, c'est juste
Voilà.
ça, c'est
Donc
pas.
t'es obligé d'avoir la compilation statique en gros de ce que je comprends. Voilà. Donc il y a des limitations. Ouais. Si vous allez sur GraalVM, vous allez trouver. Là, on trouve pas, mais bon, on va s'en
Là,
sortir.
je vais rajouter le lien, là, j'ai trouvé là où il y a les
Ah, ok,
limitations.
super.
Donc par exemple, Dynamic Class Loading, Unloading, une partie de réflexion effectivement pas supportée. Ou du JNI, bon après nos applis ont pas souvent de
Ouais,
JNI, mais
après ils
voilà.
ont. Bah ouais, mais en même temps, GraalVM,
Ou
il
les
amène quelque chose
finalizers.
qui résout le
Oui,
problème de JNI, donc.
ouais, c'est vrai. Les finalizers, par exemple.
Ouais.
ou si vous avez besoin d'un security manager aussi particulier. Enfin voilà, il y a tout un tas de quand même de limitations.
Ouais. Voilà. Du coup, on vous a laissé des retours d'expérience. Donc, il y a un retour d'expérience de Nicolas sur, bah, il a essayé de le faire marcher et en gros, ça a planté. Parce qu'effectivement, il y a encore des choses, quand on sort un petit peu des sentiers battus, bon, bah, ça marche pas. Ou alors, il y a des librairies où on s'attend pas qu'elles utilisent une voix dynamique ou la réflexion et qu'on n'a pas bien mis la liste. Enfin, bon, il y a, tout est pas encore sec, loin de là. Et puis il y a un autre tour d'expérience sur faire tourner Play sur GraalVM, une version genre Hello World. Et alors je crois que Nicolas a trouvé que la VM était Graal était moins performant que la que Hotspot et puis le celui sur Play c'était plus rapide. Et donc ça dépend beaucoup bah, du code qu'on a. Si le code il peut être enfin l'escape analysis le simplifie ben voilà ça va ça fait moins de choses et donc c'est plus rapide. Voilà il y a je pense que c'est à suivre de près, mais il y a encore du boulot. Voilà. Sinon, on va parler de Java 11.
Ouais. Donc dans Java 11, alors on a déjà parlé un petit peu dans les épisodes précédents, mais donc effectivement, donc il n'y a pas non plus que des features. En tout cas, dans les features déjà, il y a des améliorations côté, vous savez, le mot-clé var qu'on va aussi pouvoir utiliser dans les paramètres des lambda. Donc par exemple, faire var x, virgule var y, et puis la lambda, en fait, non, attends,
Ouais.
c'est. Non, pardon, au lieu de
Bar
faire
ice.
var x, var y, attends, c'est quoi déjà? On peut faire x et y, et. Ben, non, ça, on pouvait déjà le faire, attends, je suis en train de relire le. Donc là, donc il y avait la. Parce que ça, le var est dans Java 10, mais donc il fine-tune, comme on dit en français, ils améliorent.
Oui, ils
Les
affinent.
ils affinent, voilà, merci. Le support de var et en particulier dans les lambda. Il y aura un nouveau garbage collector qui s'appelle Epsilon, qui est en fait finalement un garbage collector qui fait rien. Mais par exemple, c'est intéressant pour quand on sait qu'on a des petites applis qui doivent démarrer très rapidement et qui ont une durée de vie très courte, où en fait on s'en fout de garbage collecter parce que enfin, le garbage collector n'arrivera jamais. Donc autant utiliser un garbage collector qui ne fait rien du tout, qui
Voilà, donc
compte
ça.
rien, qui lance pas de thread en background, etc. Donc du coup, on peut encore avoir des applis Java qui démarrent encore plus vite.
Ouais, donc ça, c'est pour info. Enfin, ils ont fait ça pour pouvoir tester les garbage collectors et notamment pouvoir faire des tests
Faire
de
des
perf. S'il n'y a pas de
comparaisons.
garbage, qu'est-ce qui se
Ouais.
passe? Mais c'est utile, effectivement. Par exemple, une application un peu batch ou un cron ou quelque chose. Vous savez que si vous lui allouez 3 gigas, ben, elle finira forcément en dessous des 3 gigas. Il y a pas de souci. Et ben, vous faites 3 gigas, vous mettez le epsilon et du coup, vous gagnez en temps parce qu'il y a aucune, il y a
Ouais.
aucun mark sweep et tout le surcoût du garbage collector.
On a des classes, des constantes du
Dynamique.
fichier de classe dynamique, des constantes dynamiques, c'est assez rigolo. Bon, après, c'est un peu un détail, je pense pas que ça
C'est comme en
impacte
chimie,
les.
environ exactement.
Ouais. Ça nous impacte pas trop, nous, développeurs, en tout cas. Il y aura des modules en moins. Donc côté Java EE et Corba, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Corba. Mais donc là, l'article en fait se focalisait sur un autre aspect où en fait on a déjà parlé un petit peu hein, dans les épisodes précédents, mais c'est le principe de Long Term Support (LTS). Donc où on reprend, enfin on aura des versions maintenues sur un plus long terme. Et c'est une version bah, tous les 3 ans. Donc, si on continue à suivre le rythme d'une version tous les 6 mois, ça veut dire toutes les 6 versions. Donc, ça, c'est important. Par exemple, je vois, même par exemple, côté des éditeurs cloud, par exemple, est-ce qu'on doit supporter chaque version de Java qui va sortir tous les 6 mois et tout, ou justement on propose de se focaliser juste sur les versions long-term support, plutôt que de faire toute la batterie de test à chaque fois pour être sûr que ça marche de micro-version en micro-version. Donc il y a un petit graphique aussi qui est pas mal, je trouve, dans l'article. Alors peut-être que c'est celui de... Non, je sais plus si c'est celui qu'Oracle proposait ou pas, mais qui montre un petit peu dans une frise chronologique, donc les versions là jusqu'à, par exemple, jusqu'à 2020, avec les différentes updates, et puis les différences entre OpenJDK et ses releases, les releases de Java SE. Donc voilà,
Ouais.
c'est à regarder.
Ce qui est important de savoir, c'est que donc Oracle va réaliser au sens de la JVM Oracle tous les 6 mois quelque chose, et que au bout de non tous les 3 mois, 6 mois, tous les 3 mois pardon, et au bout de 6 mois, une version n'est plus disponible, enfin elle est plus supportée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de patch de sécurité, rien du tout. Et c'est pareil pour les LTS, c'est-à-dire que si vous payez pas Oracle, si vous prenez la version gratuite de la JVM d'Oracle, elle est supportée pareil, c'est-à-dire 6 mois. Si vous voulez le fameux modèle LTS, qui donc supportait 3 ans, ou ouais, c'est ça, 3 ans, il faut demander un support commercial d'Oracle. Donc ça, c'est un changement assez fort par rapport à ce qu'on connaissait au niveau de la JVM Oracle. Et donc la solution là-dessus, c'est de s'appuyer sur d'autres distributions qui s'appuient sur OpenJDK. Donc ça peut être celle de Red Hat, ça peut être celle d'Azul, ça peut être, je sais plus, il y en a 3 ou 4 là-dessus qui se baladent. C'est pas encore clair ce que chaque autre éditeur fera en termes de support, que les LTS, pendant combien de temps, gratuit, pas gratuit, voilà. Mais l'univers où tout était gratuit, en fait, si vous voulez gratuit, il faut mettre à jour tous les 3 mois, tous les 6 mois. Voilà, c'est ça un peu le bilan du truc, donc ça va demander à accélérer un peu la cadence.
Ouais, il faut rester au-dessus, on top of things, au-dessus des choses. Ce qui est du boulot. Sinon, il y avait un article qui était assez intéressant sur la réflexion et Invoke Dynamics. Donc, quand. Alors, c'est à partir de Java 7, JDK 7, que le JSR 292 avait rajouté donc l'instruction Invoke Dynamics. L'idée initiale hein, d'Invoke Dynamics, c'était de mieux supporter aussi les langages alternatifs, donc que ce soit Groovy, JRuby, etc., et de simplifier l'invocation dynamique de méthodes. Mais en fait, ça a aussi été utilisé avec les method handle en particulier pour implémenter par exemple les lambda. Et en fait, donc vous connaissez la réflexion depuis Java, je ne sais plus quoi, 1.1 ou un truc comme ça. Ça fait tout plein de choses, on peut même accéder aux informations privées des classes, etc. Mais voilà, c'est pas un framework, on va dire, enfin une librairie qui a été beaucoup mise à jour, et on peut en fait faire tout ce que fait la réflexion en utilisant Invoke Dynamics et les method handles. Et donc cet article qu'on a mis dans les show notes, remontre un petit peu comment aujourd'hui on peut faire ce que fait la réflexion, mais avec Invoke Dynamics et puis les method handles. Donc le code est souvent un tout petit peu plus long, éventuellement 2-3 lignes de plus, mais ça montre le parallèle un petit peu entre la réflexion et Invoke Dynamics et les method handles.
Et c'est censé être plus rapide du coup, c'est quoi l'avantage de ces lignes de code
Après,
supplémentaires?
l'article couvre pas ça forcément, mais normalement, ça devrait être effectivement plus rapide. En tout cas, c'était l'idée, si tu veux, quand on a fait Invoke Dynamics, c'était aussi d'améliorer ça, hein, la performance, plutôt que d'utiliser de la réflexion tout le temps. Donc normalement, oui, ça devrait être plus efficace. Ouais. C'est pas un aspect qui est en tout cas couvert par l'article, mais ouais, plus efficace, plus rapide. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres avantages, inconvénients? Je ne saurais pas trop dire. Quand on utilise les... Après, si je dis des bêtises, Rémi, il va me taper sur les doigts. Bon, il répondra sur la mailing list. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, suivant le lookup qu'on utilise, par exemple, public lookup, on n'accède pas aux infos privées, alors que si on fait cette... c'était quoi déjà?
C'est accessible.
Cet accessible true, là on peut accéder aux trucs privés, mais on peut malgré tout accéder quand même aux trucs privés suivant le lookup qu'on utilise.
D'accord.
Donc voilà, ça peut peut-être éventuellement permettre suivant, enfin d'être sûr qu'on n'utilise pas peut-être des choses privées. Ça peut peut-être être un autre avantage à voir.
Sinon, on va passer au, on va dire, la librairie, même si c'est des frameworks, un peu du
Ouais.
middleware quand on réfléchit à ça. Il y a tout cet univers, maintenant, on est des micro-frameworks, c'est-à-dire que
Attends, tout devient micro.
tout est
Alors,
trop lourd,
faut
là. On
faire
est
des micros.
Weight Watcher.
Mais je veux dire, même nous, je veux dire, pour enregistrer le podcast, on utilise des micros aussi, hein. Tout le monde
C'est
y
vrai, on
passe.
était là il y a 10 ans, il y a
Et ouais,
quasi
avant que
10
ce
ans.
soit cool. Donc, il y a pas
Donc,
mal, ouais, de nouvelles modes, en fait, pour avoir à nouveau. En fait, c'est un peu cyclique, hein, quand même. Hein. Je veux dire, à chaque fois qu'on, tu vois, Java EE devenait bloated, on sort Spring devient bloated et trop lourd à démarrer, plein de réflexions au runtime, etc. Ah bah tiens, on va refaire des micro-frameworks encore plus légers. Pareil dans le monde JavaScript, hein, Angular devient bloated, on fait React, on fait Vue.js, etc. Donc là, il y a encore, avec en plus cette mode des microservices, il y a encore tout un tas de nouveaux frameworks qui sortent. Et il y a deux articles là, qui sont apparus presque en même temps, donc The Rise of Micro Frameworks et aussi un peu le State of Union là, des micro frameworks pour Java, Kotlin, pas que, mais aussi Groovy.
Alors juste pour donner un
Vas-y.
peu une définition, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de définition à micro-framework, c'est comme les
Ouais.
microservices, hein. Mais l'idée, c'est de dire, ça se focalise sur la simplicité et la vitesse de développement.
Ouais.
En général, ça a effectivement une code base la plus simple. Le gars, il démarre avec 5 classes et il dit, voilà, c'est mon framework. Puis bon, après, comme tu dis, ça grossit. Enfin,
Ça
ceux qui sont
grossit.
populaires grossissent pour ajouter des
Ouais.
fonctionnalités. Après, ça devient des macro-frameworks.
Ouais.
Et donc, c'est fait pour être utilisé sur des codes, enfin des bases de code beaucoup plus petites, puisque c'est censé être fait pour des microservices. Et puis, il y a plein de fonctionnalités avancées qui ne sont pas là explicitement. Donc, par exemple, pas templating engine, les fonctionnalités de sécurité un peu avancées, elles sont pas là, etc., etc. Et après, du coup, bon, bah, il y a des frameworks qu'on pourrait qualifier de lourds ou pas. Là, dans l'article, il disait, bah, Vertex, voilà, c'est un peu à la frontière maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont construites autour. Mais bon, il a démarré un petit peu micro-framework.
Ouais, c'est vrai. Après, bon, ce qu'il faut voir, c'est pareil, il y avait. Donc moi, là, je mentionnais Micronaut, là, qui est le nouveau micro-framework qui a été développé par l'équipe de Grails. Donc Grails, ils ont. Même si Grails utilise les dernières versions de Spring Boot, malgré tout, ben, on hérite du démarrage un peu plus lent, de Spring, etc. Et du coup, ils ont voulu faire quelque chose d'encore plus light, et au lieu de faire de la réflexion, ça va utiliser des annotations, annotation processing, là, pour que
Les
ce
annotations
soit
processeur, ouais.
processor, voilà, merci, je trouve plus, pour pouvoir faire ça à la compilation plutôt qu'au runtime, donc pour que ça démarre vraiment vite. Mais c'est vrai que donc sur Twitter, là, il y en avait un qui discutait justement d'un de ces articles-là et qui disait, ouais, est-ce que c'est vraiment un micro-framework? Parce qu'on peut faire plus. Ce qu'il faut voir, je pense, pour les micro-frameworks, c'est pas tant le fait qu'ils font pas plus, c'est-à-dire, comme tu disais, je sais pas, sécurité avancée, etc., mais plutôt que les choses simples puissent rester très simples et légères, démarrage super rapide, etc. Après, au contraire, s'ils sont capables de faire plus sans devenir bloated, lourd, etc., bah, qui peut le plus, peut le moins, quoi. Donc, tant que ça reste facile à démarrer pour les petites choses, que ça démarre aussi rapidement et tout, pour moi, ça qualifie quand même de micro-framework, quoi.
Ouais. Alors
Donc là,
juste
dans...
pour
Ouais.
donner les noms, parce
Oui, voilà,
on
ce
va
que
pas
j'allais dire.
détailler. Enfin, je sais pas si
Ouais.
t'es capable de détailler les différences, mais moi non.
Bah, Spark et Javaline. Javaline, je crois qu'il était forké de Spark, si je dis pas de bêtises. Les deux ont. Donc au départ, c'était des micro-frameworks pour Java, mais ils ont rajouté un support spécifique pour Kotlin. Mais on peut les utiliser aussi de manière assez sympa, par exemple, avec Groovy. Il y a Ktor, je sais pas comment on le prononce d'ailleurs, Ktor ou Ktor, je
Je
sais pas
sais pas,
trop. Ktor! Qui lui est spécialement pour Kotlin. Après Micronaut, là, celui que je vous mentionnais, fait par l'équipe de Grails, c'est pour Java, Groovy et Kotlin. Donc Grails qui lui était que pour Groovy.
J'ai une question. T'as joué avec
Vas-y, ouais.
Micronaut, toi?
Ouais, ils ont
Ok.
exploré.
Donc, je comprends l'idée de faire des choses avec le compilateur, enfin
Ouais,
le, ouais, à la
à
compilation.
la compilation, ouais.
Mais est-ce que ça veut pas dire que, enfin, comment tu fais le hot deployment ou quand ton cycle de test et de dev, au final, il passe par la compilation, du coup, il est ralenti. Enfin, on a juste déplacé le travail avant ou?
Bah en fait, vu qu'ils ont bossé vraiment beaucoup sur la partie que ce soit super léger à démarrer et tout, donc ils ont aussi, en particulier pour Micronaut, je ne saurais pas dire pour les autres, mais pour Micronaut, l'aspect test est super important. Et en fait, du coup, ils sont capables en quelques centaines de millisecondes, même pas, de démarrer un Micronaut embedded, si tu veux. Ce qui fait que pour les tests, c'est même pas moqué, c'est tu utilises vraiment le vrai Micronaut en local. Et du coup, ça a pas d'impact. Tu fais des tests unitaires et d'intégration d'un coup, j'allais dire d'une pierre deux coups, hein, en quelque sorte. Donc ça, tant que ça reste aussi léger que ça, c'est plutôt sympa, quoi.
Et donc le travail pour que ça soit léger, ça a été de...
Alors il y a
Bon.
plusieurs choses et aussi tu sais les frameworks classiques avaient tendance à, enfin à part bon voilà il y a du Webflux avec Spring mais c'est assez récent. Les frameworks classiques avaient tendance aussi à se baser sur des servlets alors que là les nouveaux frameworks souvent alors ils sont asynchrones etc. et ils fonctionnent avec du Netty. Donc la plupart je pense que tous à vérifier mais ils utilisent souvent Netty comme base pour faire la stack HTTP networking quoi. C'est aussi une des grandes différences et Netty
D'accord.
est connu pour être très 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 performant quoi.
OK.
Et là en parlant de Micronaut, j'ai mis aussi un lien vers donc là le Micronaut avait été annoncé à la conférence Greech en Espagne et la première milestone avait été réalisée à la conférence GreatConf, donc des conférences de l'écosystème Groovy. Mais en tout cas, vous pouvez les utiliser là dès aujourd'hui. Et il y avait à cette conférence, à GreatConf, il y avait un workshop qui a été donné sur Micronaut. Et donc, il y a une page GitHub qui est très bien détaillée si vous voulez vous mettre à Micronaut et tester pour faire des petits Hello World, des choses comme ça. Il y a un tutoriel qui est vraiment super là-dessus.
Et donc, pour l'info, ça a été open sourcé entièrement, parce que ça avait
Ouais,
démarré
ouais,
en...
ouais,
D'accord,
ouais.
ok.
Donc, il y a la première M1, la M1 qui est sortie. Il devrait sortir une M2 là dans pas longtemps.
D'accord.
Et c'est open source, c'est sur GitHub. Tout le monde peut contribuer.
Et on va rajouter pour la complétion qu'il y avait le truc supplémentaire, il y en a un qu'on avait oublié qui s'appelle Jubi.
Ah
Jubi,
oui, ah
Juba,
oui, Juba,
ta-ta-da-da-da.
Juba, badabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadab tu m'avais posé une question sur les tests. Il y a un article qui, enfin non, ce n'est pas un article d'ailleurs, c'est une présentation qui avait été donnée à JCon, je crois. Ouais, ça doit être ça. Qui parle en fait de Spock et de JUnit, JUnit 5 en particulier. Donc JUnit 5 qui est sorti il n'y a pas très longtemps a pas mal fait bouger les choses au niveau des tests avec JUnit hein, par rapport à JUnit 4. C'est vrai qu'il était temps hein, même finalement que JUnit évolue. Donc il y a tout un tas de choses qui sont plus simples à faire avec JUnit 5 qu'avec JUnit 4. Donc par exemple même des choses comme les tests avec comment on appelle ça, tu sais, les data-driven tests, là, les tests orientés quand on file
Ouais, comment
des
ils appellent
données
ça,
là.
les tests conditionnels? Non.
Non, pas conditionnel, mais
Property test, non, c'est pas ça?
ouais, je sais plus
Properties
quelle est la
test.
bonne terminologie, mais peu importe. Donc c'est quand on fait assert A plus A plus enfin ou je sais pas, deux fois A égale de A plus A ou je sais pas quoi, on peut donner plusieurs valeurs aux paramètres et vérifier pour chacun de ces paramètres que l'assertion est valide. Donc au lieu de faire des boucles fortes, en JUnit 4 on pouvait donner des providers qui donnaient les valeurs et tout, mais c'était moins, on va dire, moins sympathique. Alors que là, par exemple, avec les annotations dans JUnit 5, c'est plus simple. Mais par exemple, juste sur cet aspect-là, un framework comme Spock, propose des data, enfin je sais plus les data tables, ou je sais plus quel est le nom de la fonctionnalité. En fait, c'est une visualisation de sous forme de table, presque un format wiki quand tu sais quand tu es des tables dans un wiki avec les barres verticales, etc. En fait, tu as vraiment une visualisation concrète, visuelle de tes paramètres en colonnes et tout, et des valeurs que ça donne. Donc, il y a encore certaines choses sur lesquelles un framework comme Spock est super intéressant pour les tests, pour avoir des tests encore plus lisibles. Donc,
D'accord.
l'article est plutôt pas mal, donc ça couvre ça, ça couvre. Il y avait aussi l'aspect BDD, donc Given, When, Then, qui est éventuellement un petit peu plus verbeux en JUnit 5 et peut-être un peu plus joli en Spock, en particulier pour avoir dans les rapports de test, pour avoir les libellés qu'on utilise autour des Given, When, Then. Mais voilà, JUnit 5 est quand même un gros pas en avant par rapport à ce qu'on faisait avant avec JUnit 4, quoi.
D'accord.
Voilà. Après les Spock, il y a d'autres petites choses, par exemple comment ignorer certains tests, faire des tests conditionnels, aussi tout ce qui est mock, stub, spy, etc. C'est assez riche et c'est built-in, si tu veux, c'est intégré dans Spock, mais avec JUnit 5, si tu utilises Mockito, par exemple, c'est vraiment top aussi. Voilà. Les tests paramétrés, voilà, c'était le terme que je cherchais, j'ai retrouvé. Voilà.
Cool. Alors on va passer au middleware. Il y a un article de mon CTO Mark Little qui annonce, ça y est, Jakarta. Alors c'est un petit peu ancien parce qu'on a repris en fait un peu quasi les 2 derniers mois là des news. Hein. Jakarta AI est officiellement sorti. Donc je sais qu'Antonio a été assez négatif hein, dans tous ses discours sur Java AI. De toute façon maintenant il est passé au front. Donc voilà. Donc je voulais un petit peu remettre un petit peu l'équilibre. Alors effectivement il y a un démarrage qui a pris du temps, mais il y a pas mal d'IT qui commencent à bouillonner. L'article de Marc explique bien l'importance de la communauté. C'est vraiment ce que je vois dans les interactions. Et je vais mettre dans le même panier MicroProfile, qui est en fait quelque part un petit peu le tech preview de ce qui pourrait aller dans Jakarta AI. Donc c'est un modèle intéressant où il y a une communauté un peu plus rapide, bouillonnante. Donc là on est en train de discuter sur par exemple sur les accès aux données. Est-ce qu'on simplifie un peu JPA pour certains usage, ou on part sur autre chose? Voilà, il y a plein d'interactions super super intéressantes, bah comme dans une communauté open source finalement, et c'est un petit peu l'idée évidemment. Sur ce sujet-là, il y a une barre de progression en fait de comment ça se passe au niveau du transfert de Java EE dans, alors c'est un peu compliqué, mais Java EE est transféré au projet Eclipse qui s'appelle IE4J, et en fait l'équivalent de Java EE en nom, ça sera Jakarta IE. Voilà, c'est comme ça que ça se joue. Et donc la barre.
Jakarta, moi ça me rappelle tous les trucs chez Apache sous la c'est
Oui,
Jakarta
c'était l'umbrella
Tomcat,
Java à
tout ça.
l'époque, ouais.
Bah ouais.
Exactement. Bah, Jakarta, c'est l'île de Jakarta, donc enfin, c'est
Oui, oui.
la ville sur l'île de Java.
L'île de Java.
Donc c'est une barre de progression un peu arbitraire parce que 20%, c'est le projet a été proposé à la revue par la communauté, 40% des committeurs et des ressources ont été provisionnés, 60% la contribution initiale a été fournie à l'Eclipse, à l'équipe de propriété intellectuelle d'Eclipse, parce que Eclipse, vous rappelez, il regarde toutes les lignes de code et il dit c'est bien toi qui l'as écrit, oui, non, etc. Donc le code est censé être clean. 80%, la contribution a été poussée sur un repository Git, et 100%, le projet a fait sa première release. Alors il y a que Eclipse Link hein, qui est à 100%, mais sinon il y a quand même beaucoup qui sont à 80%, donc où le push est là. Donc on a déjà le code, on peut commencer à travailler sur des choses. Je sais qu'il y a des efforts autour de réactifs par exemple qui sont là pour le coup encore un truc supplémentaire qui sont pas dans les spécifications classiques de Java AI, mais qui feront partie de Jakarta AI avec des explorations de Red Hat, de Lightband, d'IBM et d'autres. Voilà, alors il y en a quelques-unes qui sont un peu plus à la bourre, notamment JPA de mémoire. Ouais, mais C'est qu'après, bon, bah, faut trouver les, bon, on peut pas tout faire avancer en même temps, j'imagine, mais en tout cas, ça progresse, là. C'est ça que je voulais faire comme message. Sinon, il y avait un article. Alors, je sais pas qui est ce monsieur-là, Eugène Parachif, mais en tout cas, il a l'air de vivre dans le, dans la, on est tous un peu dans des bulles, hein, mais il a l'air de vivre dans la bulle Spring. Et du coup, il fait une évaluation, enfin, voyons, le franglais, là, je rame. Les gars, je rame. Survey, comment on dit survey?
Un sondage,
Un sondage,
voilà.
merci
Ouais.
Guillaume. Donc, un sondage de 5000 développeurs qui lui disent, bah voilà, quelle est la version de Java que vous utilisez? Alors aujourd'hui, à 84%,
Java
c'est Java
8,
8, hein,
c'est écrasant.
et Java 7, encore 8%.
Eh ouais.
Java 9, Java 10, on est à 4% poussant les wagons. Ah, il y a encore du Java 6, disons. Les
Ouais,
gars, là, c'est chaud.
c'est legacy.
Au niveau de l'adoption de Spring, donc Spring 4 est encore à 50%. Je crois que ce qu'il dit, c'est que Spring 5 a quand même pas mal gagné par rapport à l'année dernière, qui est maintenant à 24%. Alors Java E, qui est, alors évidemment, c'est là où on parle de la bulle, qui est à 10%, sachant que l'un n'exclut pas l'autre, donc je sais pas comment les gens répondent. Voilà. Ensuite, l'adoption Spring Boot, ce qui montre, c'est que Spring Boot 1.5 est à 46%, Spring Boot 2 est à 30%. Donc, au niveau des utilisateurs de Spring Boot, il y a une accélération assez forte pour prendre la dernière version, en fait, plus que Spring,
Plus que
quand on
Spring
compare à
Boot.
l'exemple d'avant. Il y a des gens qui utilisent pas Spring Boot, qui sont à 16, enfin à 17%. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même une adoption de l'outil Spring Boot pour démarrer des projets. Au niveau des outils, Maven is King, 74,2%, donc c'est digne d'une république bananière. Gradle à 21%, donc qui domine pas, en fait, finalement. Pourtant, là, on parle de, alors est-ce que c'est les anciens projets qui bougent pas, etc., mais en tout cas, il n'y a pas un Gradle qui domine, etc. Ce qui
Que
surprend un
par
peu la
contre, ce
personne qui dit, bah
qui... Ouais.
moi j'ai quand même, enfin, j'utilise Gradle et je suis pas revenu en arrière, je comprends pas les gens, etc. Donc il y a toujours un peu ce débat-là.
Après, il y a deux petits points que je voudrais rajouter
Ouais.
là-dessus. Donc, je sais que l'équipe Gradle, ils monitorent par exemple les nouveaux projets qui sont créés sur GitHub. Et apparemment, en termes de nouveaux projets Java, maintenant, si tu regardes, il y a plus d'un projet sur deux nouveau créé avec Gradle plutôt qu'avec Maven. Après, côté
Ouais, mais
Spring,
c'est des
donc
projets
le temps,
Microsoft, alors.
je sais pas, mais après côté côté Spring, je sais que l'équipe Spring des fois était, enfin c'est pas qu'ils sont pro Maven, mais en tout cas ils ont tendance à, parce qu'ils aimaient pas la manière dont Gradle traitait les bombes et je ne sais plus trop quoi, et du coup ils ont peut-être tendance à quand même pousser peut-être plus Maven que
Et n'ont pas traité les bonnes,
Gradle.
hein.
Et ouais. Je n'ai pas dit ça. Ah, c'est toi qui fais les blagues aujourd'hui.
Ouais, je sais pas, là, visiblement, t'en fais pas, alors faut bien que je remplisse.
Donc voilà, alors est-ce que ça explique? Est-ce que c'est. Je sais pas trop. Donc c'est toujours difficile de savoir qui est vraiment devant l'autre ou pas.
Ouais. Au niveau IDE, NetBeans, 5%, Eclipse, 38%, IntelliJ, 55%.
Pas mal.
Vim, 1,6. Non, c'est autre, mais je vois pas qu'est-ce qu'ils utiliseraient
Qu'est-ce qu'ils
sinon.
pourraient utiliser d'autre que... Ah, Visual Studio Code, là,
Ah oui,
il y
c'est
en a de
vrai.
plus en
Ouais,
plus
un
qui
peu les nouveaux
l'utilisent.
trucs là,
Ouais.
Sublime 2, Atom,
Moi, du coup,
Atomic.
j'utilise... Ouais, mais Visual Studio Code, il a bouffé pas mal, justement, Atom, Sublime, tout ça.
Ouais.
Ah ouais. Donc,
D'accord.
je le vois partout, moi, Visual Studio Code. Même moi, je l'utilise, des fois, pour mes présentations.
Au niveau serveur d'application, mais faudrait que j'essaye moi en fait, j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Bon après je suis sur Vim, alors déjà que je code plus trop, si je me mets en plus à ne plus utiliser Vim, là c'est foutu.
C'est la fin.
Au niveau serveur web en tout cas, enfin l'outil qui répond à
Tomcat.
HTTP, donc Tomcat à 62%, Jetty à 8,3%. Alors après, il y a Whitefly plus JBoss EAP. Alors ça fait 4,9 plus 5,9. Donc ça fait 10,8%. Et ensuite, on tombe à des choses genre WebLogic, WebSphere, rien ou autre. Voilà.
Après, ce que je me demande, tu sais, on parlait des micro-frameworks tout à l'heure, qui ont tendance à être basés sur du Netty et qui démarrent avec des jars exécutables. Comment les gens répondent à cette question, justement, qui est très orientée? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous utilisez comme application server? Bah ouais, mais moi, j'en utilise pas. Alors, est-ce qu'ils vont répondre other? Est-ce qu'ils vont répondre known? Est-ce que, tu vois, c'est un peu difficile de répondre à cette question-là
Je suis
quand
d'accord avec toi, bah, ça
c'est
fait
vraiment le
du
cas.
11%, donc c'est voilà.
Si on, ouais, si on
C'est le
combinait
numéro
le.
3 en
Ouais.
compétition avec Wildfly slash JBoss Web.
Exactement.
Quels sont les autres langages de la JVM que vous utilisez? Aucun qui dé un petit 60 quelque chose pour cent hein, quand même.
Ah
Et
ouais.
puis sinon, Groovy en numéro 2 avec
Ouais.
19%, Kotlin avec 13%.
C'est bien
Scala avec
noté.
9,7%, Clojure 1% et Other 2%.
Yes.
Donc on reste sur Java. Je pense que ça va être quand même une tendance. Java a arrêté sa fuite en fait, enfin, au niveau de grâce au lambda, etc., grâce
Ouais.
à l'accélération. Donc ça c'est plutôt positif pour l'écosystème Java. Et puis bah, Groovy est encore là malgré tout, même si on n'en parle
C'est
pas
vrai
tant
qu'on
que
n'en
ça.
parle pas, y a pas de buzz, mais ça reste énormément utilisé. Moi, je continue à traquer, par exemple, les nombres de téléchargements et tout, et ça continue de grossir, grossir, même si on n'en entend pas beaucoup parler. Donc, c'est marrant.
Et pour les usages futurs, c'est pareil, Groovy en tête avec 42% et Kotlin avec 28% et Scala
Ouais.
21%. En fait, Scala, ça y est,
Scala
c'est
descend pas mal.
Kotlin, enfin disons l'univers d'un langage un peu moins
Ouais.
poussé finalement, que ce soit Kotlin ou Groovy,
Ouais. Kotlin a
ça.
mangé pas mal Scala en fait. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Après Scala, il y a aussi des niches, hein, tu sais, tout ce qui est Big Data avec tous les projets Big Data de enfin, tu sais, Spark et compagnie.
Ouais.
Ça reste du Scala, donc il y a toujours une niche assez forte, par
Ouais.
exemple, là-dessus. Mais
Mais
peut-être que pour les projets non.
comme
Ouais,
disait
vas-y.
Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, ça ne compte que pour un, même si c'est un
Ouais.
Big Data Project.
Yes.
voilà, donc ça c'est fini pour cet article-là. Alors là, c'est juste en passant, parce que je suis en train de m'intéresser à Camel et à toutes ces approches où, en
Tu
fait, on
fumes des
définit des
camels, toi?
routes, on fait du. Ouais. Au lieu de coder son appli et faire le liant finalement à la main. Et du coup, il y a des connecteurs pour tout, mais il y en a un pour bin validation. Donc on dit, bah voilà, je reçois un truc de Camel et s'il y a un bin qui définit les contraintes dessus, bah, je le passe par le connecteur Camel bin validation qui va me valider, me lever des exceptions si ça marche pas. Donc au lieu d'avoir des ifs dans votre code, là c'est défini en tant que route qui va filtrer vos données, donc je trouvais ça un usage intéressant. Par contre, je reste quand même perplexe sur quand est-ce que les gens utilisent Camel, quand est-ce que les gens utilisent des applications classiques, alors que ça soit des micro-frameworks ou des serveurs d'applications, que du Tomcat, peu importe. Si vous avez du retour là-dessus, n'hésitez pas à nous faire un petit crowdcast, nous dire, bah voilà, moi j'utilise Camel pour ça, et où est-ce que vous mettez la limite entre je définis une route Camel et puis en gros je fais un if ou un appel direct dans mon application ou d'une application à l'autre. C'est un sujet qui m'intéresse, donc soit sur la mailing list des cascodeurs, soit un petit crowdcast pour ce feedback, ça serait intéressant. T'as de l'info toi ou toi tu n'utilises pas vraiment et du coup tu connais pas
Tu veux
trop?
dire Camel? Non,
Ouais,
je.
l'approche Camel, en fait, tu vois. L'approche Enterprise Integration Pattern, finalement.
Ouais. Bah non, pas trop. Après, enfin, c'était quand même un gros, gros morceau de l'industrie, hein, tout ce qui était justement, c'est tous les USB, toutes les choses comme ça. Donc je pense que les entreprises, les grosses entreprises où il y a beaucoup de sources variées, de données sous formes différentes, sous des flux différents, des canaux différents, ça reste quand même assez pertinent, ces outils-là, et Camel simplifie quand même pas mal les choses. Donc c'est peut-être plus dans ces genres de situations-là. J'ai pas trop bossé sur ce genre de projet-là, donc je ne saurais pas en dire plus.
Ça roule. Alors, au niveau, on va passer à l'infrastructure. Premièrement, il y a un super article en profondeur sur MS-DOS, Et pourquoi il y avait la limite à 640K et d'où elle vient? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour passer au-delà de la limite de 640K, qui était une limite assez forte, le lien entre le hardware, le software, etc. Et donc, si à l'époque, si vous êtes assez vieux comme moi et que vous avez optimisé votre config-sys avec, alors je sais même plus les noms des choses, mais tu avais les... Enfin, le travail sur le extended memory, le EMS si ça vous dit quelque chose, voilà, HMA si ça vous dit quelque chose, XMS si ça vous dit quelque chose, tout ça, c'est intéressant. Ça explique le 8088, le 8286 qui en fait améliorait pas trop les choses. Du coup, Microsoft a été obligé d'amener des trucs mais qui eux considéraient merdiques, mais ils n'avaient pas le choix. Ensuite, il y a le 386. Ensuite, il y a des émulateurs qui simplifiaient ça parce que au lieu d'avoir cette mémoire très fragmentée, en fait, ils arrivaient finalement à pouvoir dire ben, de 1 méga à 4 mégas, 8 mégas à l'époque. On va pouvoir l'utiliser de manière continue. Donc Doom, je crois que c'était ouais, Doom, c'était un des projets à des premiers projets à utiliser ça. Voilà. C'est les DOS Extender. Voilà.
Ah oui.
Donc c'est un article assez intéressant et même Microsoft qui était coincé quand ils ont amené Windows, bah ça rentrait pas dans 640K quoi. Donc c'est,
Ah, tu
je sais
m'étonnes.
pas si vous vous rappelez, on optimisait, on dit alors je mets pas ce driver là, je mets tel autre, je mets l'autre dans tel autre endroit. C'était vraiment du Tetris en fait à l'époque. Démarrer son PC pour les jeux. Voilà.
Un
Donc
temps que
c'est
les moins de 20 ans ne peuvent pas
ouais
connaître.
là, voire même 30. Hein. Voilà, sinon Gvisor, donc comme Guillaume Viseur.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est, Guillaume, ton
Oh
nouveau
merde,
projet?
c'est toi qui l'as rajouté en plus.
Ouais.
Alors, moi je suis pas un super pro des containers, de la
Ouais, je vais essayer de
virtualisation,
l'expliquer, puis
etc.
tu me corriges, d'accord?
Ouais, ça marche.
Donc, les containers, en fait, ça utilise, ça lance un système d'exploitation Linux. Il y a le kernel qui est là, et puis les containers, c'est le kernel qui définit des isolations en fait entre les applications. Donc l'application, elle croit qu'elle est toute seule dans un micro-univers, mais quand elle fait un appel système, ça appelle le kernel qui est partagé par toutes les applications. Donc il y a du filtre au niveau de l'I/O, du filtre au niveau de l'usage du CPU, de la mémoire, mais toutes les ressources ne sont pas forcément filtrables et limitables par le kernel, d'accord? Et ça, c'est la technologie des containers comment ça s'appelle? Je voulais pas
Docker,
dire
tout
Docker,
ça.
mais je voulais dire le truc qui est en dessous là, les cigroupes et les machins comme ça.
Ouais.
Voilà. Ensuite, l'autre solution, c'est de dire ah ouais, mais alors ça peut leaker. Enfin, en gros, si quelqu'un attaque le kernel, eh ben il a accès à toutes les autres applications. Voilà. Donc ça, c'est au niveau isolation, c'est un peu limite. Donc, enfin, c'est plus limité. Donc l'autre approche, alors l'approche extrême, c'est bah, une machine, une babasse physique par application, mais bon ça, c'est fini.
Ah,
Donc
dans
l'autre
Ticket,
approche, c'est
bonjour.
d'utiliser des machines virtuelles. Donc on a le hardware, on a un kernel du système d'exploitation host. Ensuite, les appels, enfin on a la technologie de
De
machine virtuelle.
virtualisation.
Elle fait tourner un kernel. Comment on dit, pas hôte mais guest, alors un kernel visiteur, je sais pas si
Invité.
c'est un guest kernel invité, et puis l'application tourne sur ça. Donc quand l'application a fait un appel système, en fait elle fait un appel système au kernel qui est le système d'exploitation qui est tourné par la machine virtuelle. Et ensuite, bah, la machine virtuelle va faire au final l'appel au système, enfin au kernel host. Donc il y a une indirection. Et du coup, il y a une isolation qui est meilleure. Et donc, ce que Gvisor essaie de faire, c'est de. Alors, mais par contre, c'est lourd en termes de bah, mémoire surutilisée, puisqu'on a deux kernels, enfin deux systèmes d'exploitation qui tournent l'un sur l'autre, sans parler de la virtualisation, pour faire tourner l'appli. Donc là, ce que fait Gvisor, c'est ce qu'on va faire, c'est on veut que l'application elle fasse ses appels système pas sur le kernel du système d'exploitation global, mais sur un kernel qui lui est dédié. Et donc c'est le kernel Gvisor justement. Donc l'application elle fait un appel système sur Gvisor et Gvisor il tourne dans le user space et lui fait l'appel au kernel de votre système d'exploitation. Donc en fait, gVisor, en fait, c'est un kernel qui tourne comme une appli. Et donc c'est un kernel
Voilà.
qui fait tourner des applis sur un autre kernel. Mais il n'y a pas le système de virtualisation au milieu, voilà. Donc c'est censé être plus léger. Et
Très
puis c'est
léger.
écrit en Go, donc forcément c'est top, hein. Voilà. Donc c'est mon explication, en tout cas ma compréhension de cet outil-là. Si vous regardez l'article, il y a des petits diagrammes
Ouais,
qui
qui
vont vous faire
illustre bien
comprendre ça
justement ce
assez bien.
que
Voilà,
Emmanuel
c'est
vient
ça.
d'expliquer. Et en fait, là, juste hier, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une série de tweets par Oren Tate, qui est en fait le programme manager, product manager de tout ce qui est serverless chez Google Cloud, donc par exemple Google App Engine, Cloud Functions, etc. Et qui dit publiquement qu'en fait, gVisor, là, c'est cette technologie-là qui est utilisée depuis des années en interne par Google pour justement isoler les applis App Engine, Cloud Functions, etc. Donc c'est un
Alors, quand
truc
vous
sur
dites c'est la
lequel...
technologie, c'est un peu
Ouais.
comme Borg et Kubernetes, c'est-à-dire que c'est les mêmes concepts, mais là il y a une version open source et vous aviez un autre truc en
Là,
interne
c'est
ou tu
vraiment
sais pas? C'est le
le... Non,
même?
là, c'est oui, c'est vraiment le même.
D'accord.
Kubernetes, c'était une réimplémentation de ce qu'on faisait côté Borg. Autant là, gVisor, c'est vraiment ce qu'on utilise, nous, en interne, quoi. Donc,
Ok.
c'est un truc qui a été testé sur des millions et des millions d'applications, quoi, avec
Testé et
des...
approuvé par Guillaume Laforge.
Ouais.
Notamment.
Entre autres. Donc, non, c'est super. Et puis, donc, on peut... tu sais, il y a aussi Runcie, alors bon, tout ce qui est
Oui, il y a
standardisation
OCI, l'initiative
des
OCI qui permet
voilà
d'abstraire la notion de container, enfin ce que veut dire un
de
container.
container, d'image, etc. Et du coup, il y a aussi une nouvelle commande qu'on propose là dans le projet open source qui est run SC comme secure de container qui permet justement de faire tourner des containers mais avec ce niveau de sandboxing, de bac à sable de gVisor. Donc au lieu de faire Docker run, on peut rajouter un flag même pour lancer ces containers avec run SE, avec ce gVisor qui va protéger et isoler les applis containerisées.
D'accord. Donc là, vous rajoutez une couche, mais comme vous avez utilisé GraalVM pour passer au binaire, bon, donc
Alors, en fait, non,
globalement,
à la
c'est bon.
limite, ça, c'est même pas une couche dans le sens où ça remplace le run 6, si tu veux, qui les faisait tourner.
Non, parce que dans ce que j'ai expliqué, il y a quand même une couche supplémentaire qui est qu'il y a un kernel en user space, en fait. Parce que
Ouais,
RunC, effectivement, ça remplace la commande, mais en termes
ouais.
de couches
Oui,
qui
tu as
font
raison,
tourner le
oui.
truc à la fin, qui font bouger les
Yes.
0 et les 1, il y a une couche supplémentaire, c'est ce que je veux dire.
Yes, exact.
Voilà, et
Tu as
puis
raison.
scaffold.
Alors, Scaffold, alors là, c'est dommage que j'ai pas mon ami et collègue David Gageot avec moi, parce que c'est un des développeurs de Scaffold, donc lui, il saura mieux. Peut-être que d'ailleurs, on devrait faire une interview, ça pourrait être intéressant. Donc, il y a le projet
Il faudrait qu'on fasse
Scaffold,
un truc Kubernetes de manière générale,
Kubernetes,
en fait.
ouais, carrément, ouais. Non, c'est
Enfin,
clair.
même deux épisodes, parce que ça va pas être
Ouais,
simple.
c'est assez riche comme environnement, quand même. Donc, Scaffold, alors Kubernetes, c'est bien. Moi, les critiques des fois
Mais
que
OpenShift, c'est
j'entends...
mieux. Non, c'est pas ça le...
Non, c'est pas ça.
Merde.
Là, j'étais à une conférence il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, où quelqu'un me dit, ouais, alors mais Kubernetes, c'est bien, mais c'est quand même très hop, c'est pour nous, développeurs, c'est pas aussi simple que ça pourrait l'être. Alors, on a des trucs, des mini-cubes, des machins qui te permettent de développer en local et tout, c'est cool. Mais par exemple, quand on est habitué un petit peu à une approche... enfin pas REPL mais tu sais feedback loop où tu fais des modifs, tu retestes tout de suite, tu recompiles, tu rebalances tes tests et tout. Enfin cette approche-là simplifiée du lifecycle du développement continu est un petit peu plus lourde avec Kubernetes. Et en fait justement Scaffold se propose de simplifier ces étapes-là. Donc ça va regarder si tu as changé ton code, que tu as recompilé, du coup il va essayer de rebuilder des images, de redéployer en local sur ton cluster en local, ou si tu le fais sur un cluster, enfin, j'allais dire distant, un vrai cluster qui est dans le cloud, par exemple sur Google Kubernetes Engine ou autre, hein, bah, en fait ça s'intègre dans les deux flux de développement, donc soit en local, soit à distance, et du coup ça simplifie, ça repousse. On n'a pas besoin de changer les IDs des layers, des containers qui ont été construits, ça le fait de manière automatique et transparente pour vous. Donc normalement, on gagne pas mal dans le cycle de développement d'une appli qui est containerisée et clusterisée avec Kubernetes. Mais ouais, ce serait pas mal de faire un épisode dédié à Kubernetes en fait. Parce que c'est un environnement, un écosystème très, très riche et que je trouve quand même assez compliqué. Ça peut être pas mal de couvrir également, tu vois, justement ces outils-là. Donc là, il y a Scaffold, mais il y avait aussi un autre outil là, que j'ai mentionné dans un autre lien, là, c'est Kaniko, qui permet aussi même de builder des images de containers Docker, même sans avoir Docker, par exemple, sur sa machine. Donc il y a tout un tas d'outillages sympas qui simplifient l'utilisation de Kubernetes, dont Scaffold.
Au niveau cloud, rapidement, donc App Engine est passé sur Node 8.
Enfin, est passé. On a rajouté un nouveau runtime avec
Pardon.
Node 8, Node.js 8 sur Google App Engine. Donc ça, c'est tout nouveau. Ça faisait longtemps. Alors, on fait évoluer les runtimes existants, Java, Python, etc. Mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un tout nouveau runtime sur App Engine. Donc maintenant, on peut faire du Node.js sur App Engine. Ce qui est pas mal aussi, c'est que sur le système qui fait tourner Node, en fait, il y a tout un tas de packages natifs aussi qui sont disponibles, enfin des libs Linux divers et variés. Et par exemple, il y a ce qu'il faut, par exemple, pour faire tourner Chrome en mode headless. Donc, par exemple, j'ai fait un petit article là-dessus, je sais plus si j'ai mis le lien d'ailleurs, il faudrait que je le rajoute. J'ai fait un article là-dessus où je montre comment faire des screenshots avec Chrome côté serveur en utilisant Chrome Headless et justement en tournant dans ce nouveau runtime Node 8 sur App Engine. Donc voilà, c'est cool pour ceux qui font du Node.
Ouais. Alors là, on va parler des technologies web,
Que nous,
ou
on maîtrise, bien
UI qu'on
sûr.
maîtrise à fond. Donc la version 6
Audrey,
d'Angular est
Audrey, reviens.
sortie. C'est ça. On aurait pu lui demander de préenregistrer ce morceau, en fait.
Ouais.
Alors, on va pas vous prétendre qu'on connaît, d'accord, mais dans Angular 6, il
Du
y a pas
tout.
mal de choses qui sont nouvelles. Notamment, ils ont pas mal travaillé au niveau des providers là pour qu'ils soient tree-shakable. Donc tree-shakable, c'est l'idée de pouvoir déterminer les codes morts, en fait, les codes qui sont pas utilisés, ce qui, alors je sais plus si du coup ça permet d'avoir un point JS qui est plus petit, ou si c'est au niveau du runtime que ça marche plus vite. Je me rappelle plus les détails, mais en tout cas ça a l'air important cette année pour l'univers JavaScript d'être tree-shakable. Donc ça, c'est bien. Rx JavaScript 6 a été intégré donc dans Angular. Donc ça, c'est bien. Ils gardent la main. Des choses autour de l'internationalisation. Et c'est là où là vraiment ça me perd pas mal de trucs autour de l'animation des Angular Elements qu'on peut maintenant. On peut prendre une application Angular, de ce que j'ai compris, et prendre des Angular Components et les encapsuler en tant que Web Components pour les utiliser dans une application non Angular, si j'ai bien compris. Et puis des travaux au niveau de la ligne de commande, si je me souviens bien, notamment ng-update qui est là pour vous aider à décider comment mettre à jour votre application. Donc ça va pas remplacer votre npm et autres. C'est quoi l'autre? Il y a quelque chose.
Yarn.
Yarn et autres, enfin les 5000 autres que vous avez, mais ça va les appeler pour vous en fait. Donc vous êtes encore obligé d'installer 47 package managers, mais au moins vous n'êtes pas obligé de les invoquer tous. Voilà, pareil pour rajouter des nouvelles choses, la ng-add qui a été rajoutée, par exemple, tiens, je veux rajouter le support material pour Angular ou des choses comme ça. En parlant de Angular material, je crois qu'il y a des nouveaux composants matériaux, les barres side nav, un truc de dashboard, une autre, encore une data table, etc., etc. Est-ce que tu crois que j'ai oublié des choses importantes que toi tu aurais retenues?
Oula, moi
Tu ne
je
touches pas.
faisais non, je faisais encore du Angular JS, la version bien avant Angular. Alors
Ouais.
non, je ne connais pas du tout ce domaine-là.
Ok.
Audrey, reviens. Audrey,
C'est
reviens.
ça. Voilà, écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Hein.
Yes. Mais toujours côté web, il y
Ouais.
avait aussi Ryan Dahl, c'est celui qui a créé Node.js, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Là, il y avait la conférence. Attends, comment ça s'appelait? C'était JSConf, je sais plus. Donc là, la grosse conférence JavaScript là, de la semaine dernière, il y a Ryan Dahl dans la keynote sur Node.js qui revenait un petit peu sur toutes les erreurs ou tous les regrets qu'il avait par rapport à Node.js. Donc par exemple, le fait d'avoir, comment dirais-je, préféré les callbacks aux promises. Alors qu'à un moment, il avait commencé à mettre les promises, finalement, il avait fait marche arrière, mais c'est vrai que c'était une époque où on utilisait beaucoup moins les promises. La sécurité, où par défaut, on peut de toute façon accéder au système, écrire sur disque, accéder au réseau, qui se dit, ça aurait été mieux si on avait dû demander l'autorisation de faire un truc, enfin de sécuriser, plutôt que de donner libre accès à tout. Donc ça aurait été mieux niveau sécurité, niveau build system. Ils étaient partis sur un outil sur JIP, alors je ne connais pas, JYP, qui est un outil de build basé sur Python. Et puis finalement, ils sont restés que les seuls à l'utiliser, donc c'est un peu legacy. Après, il y a tout un tas d'autres regrets par rapport au module node, au package JSON où on définit les nodules,
C'est bon ça,
comme le
les nodules.
cancer. Oui, j'ai pas fait exprès. Un lapsus révélateur. Le cancer des nodes modules, les nodules. Donc il y a un article aussi là qui passe
Notamment,
en revue tout ça. Vas-y.
notamment
La
les...
complexité des algorithmes justement de résolution des dépendances aussi, mais qui est un problème quand même un peu dans tous les
Ouais, tout le
environnements,
monde a ça. Mais
c'est
notamment,
clair.
il aurait bien aimé un Maven central plutôt que déléguer tout ça sur
Ouais.
GitHub. Voilà.
Ouais. Comme quoi.
Comme
Et
quoi.
du coup, ce qui était amusant, alors j'avais regardé la présentation et en fait, donc là c'est mentionné aussi dans l'article qui couvre cette keynote. Et en fait, il dit voilà, tout ce qui est pas bien, j'aurais fait autrement et tout. Et by the way, je lance le framework Deno, Deno. Donc, il relance un Node.js-like qui s'appelle Deno. Donc, c'était un peu, enfin, amusant de voir que ah tiens, j'en profite pour faire la keynote sur Node.js. Et au fait, j'ai lancé un truc mieux que Node.js. Ça faisait un peu, enfin, ça m'a donné un peu cette impression-là, quoi.
Ouais.
Et donc qui est basé sur TypeScript, qui est plus sécurisé, donc faut mettre des flags pour autoriser l'écriture sur le réseau, sur les file system, sur des versions. Donc ça utilise aussi des versions plus récentes de V8, moteur JavaScript, etc. Donc bon, je sais pas. Et j'avais regardé, donc il l'a mis sur GitHub le projet, et tu vois, en même pas 24 heures, tu avais je sais combien de stars sur GitHub. Mais bon, c'est un truc encore très embryonnaire, donc c'est pas forcément utilisable là aujourd'hui tout de suite. Il y a encore pas mal de boulot.
Mais les stars, c'est un peu. C'est comme les likes sur Facebook à un moment.
Ouais,
On
ouais,
voit pas
ouais.
trop la signification de la
C'est
star.
clair.
Enfin.
Et dernier petit truc sur le web, j'avais noté. Alors, je revois passer régulièrement des tweets ou des articles là-dessus, mais c'est toujours bien, je pense, de le rappeler. Il y a un article qui nous parle de console log, quand on fait des console log en JavaScript, là. Donc, on fait souvent juste console.log, mais en fait, il y a plein d'autres méthodes intéressantes, donc console.error, console.warn, console.info, comme le logging qu'on fait en Java, quoi. Mais il y a aussi des petits trucs sympas, par exemple console table, pour qu'on puisse voir là dans la console JavaScript, quand on a des tableaux, pour voir sous forme de tableau les valeurs qu'on a passées. Donc ça, c'est super sympa. Il y a aussi,
Console group aussi, ouais, pour
ouais,
que ça soit foldable, un ensemble de logs en
automatiquement
fait.
avec les petits triangles là, pour voir zoomer ou pas. Il y a un truc que je connaissais pas en fait, c'était il y a console time et time end et count où en fait quand on fait plein de boucles et on veut compter combien de fois on est passé par tel endroit ou compter le temps qu'a mis un certain bout de code. En fait, je savais pas qu'il y avait des méthodes time end et count qui permettaient en fait de compter et de mesurer le temps mis par certaines choses. Ça, par exemple, j'avais découvert ça. Et puis il y a aussi un assert pareil que je connaissais pas. Qui permet de faire des petites assertions et de les voir passer. Parce que console log, ça passe tout le temps. Ou alors il faudrait faire des if, machin, then console log. que là, c'est un petit peu comme des assertions. Il n'y a rien qui s'affiche si l'assertion passe, mais s'il y a un truc qui ne va pas, on va voir l'erreur qui s'affiche dans les logs. Donc pas mal ce petit article qui résume bien tout ce qu'on peut faire avec console.log et consort.
Ouais. Alors, la grosse news, on a fait un petit teasing un petit peu plus tôt. Microsoft a racheté GitHub pour
Coucou.
7,5 milliards de dollars.
Une bouchée de pain.
Voilà. Je pense que ben, si GitHub était à la recherche d'un racheteur, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle que ça soit dans les mains d'un, enfin, parmi les gros, que ça soit dans les mains de Microsoft. Que bah, par contre ça a créé un peu un tout le monde s'est dit oh là là gros scandale
Je vais aller
etc.
sur
puisque
GitLab, je me barre.
voilà c'est ça je me barre sur GitLab qui est apparemment hosté sur Azure donc tu peux pas y
Je
échapper
peux pas échapper à Microsoft.
donc ça c'était assez rigolo.
C'est vrai. Mais c'est vrai que Microsoft a quand même bien changé depuis qu'il y a Satya Nadella. Ils sont à fond open source, à fond sur tous les langages et pas que la plateforme .NET, etc. Donc c'est quand même un Microsoft qui est différent du Microsoft d'il y a 10 ans, 20 ans, quoi, monopolistique, etc. Donc ça, moi personnellement, ça m'a pas trop inquiété de voir Microsoft les racheter, quoi. Je vais continuer à utiliser GitHub, c'est top pour la collaboration et tout. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude, quoi.
Ben voilà, moi, en fait, je comprends pas. Les gens disent, en fait, comme l'article qu'on a mis là, c'est un article de la Fondation Linux,
Ouais.
enfin du directeur de la Fondation Linux, qui dit, ouais, les gens ont un peu mélangé, Microsoft rachète GitHub et Microsoft rachète l'open source. Et en fait, ça a
Ouais.
effectivement aucun sens, puisque on a déjà vu un certain nombre d'exodes d'une plateforme à une autre. On était tous sur SourceForge, hein.
Ah oui.
On a tous
Oh
bougé sur GitHub.
les
Certains sont
dinosaures
passés par
ressortent.
Google Code et puis ils sont partis. Enfin, ils se sont fait jeter. Il y a un grand nombre de... En fait, ce qu'il dit, c'est assez intéressant, c'est qu'il dit la communauté open source, en fait, s'appuie sur des plateformes extrêmement centralisées. Donc voilà, il y avait SourceForge avant, il y a GitHub qui a encore plus concentré puisqu'il y a l'aspect social qui en fait, qui a accentué cet effort-là. Stack Overflow, c'est pareil, hein. Si Stack Overflow se fait racheter par Oracle, eh ben, vous serez content, hein.
Ouais.
Voilà. Donc, surtout que voilà, vous aurez trois réponses gratuites et puis après, il faudra payer le. Non,
C'est
mais en
marrant.
fait, ce qu'il dit, c'est que c'est un peu le paradoxe de l'open source, c'est que l'open source a besoin de ces choses extrêmement centralisées pour créer un univers d'échange et de bouillonnement, mais que moi, ce que je rajoute par-dessus cet article, c'est qu'on est de toute façon extrêmement flexible hein, par rapport à d'autres sur ben, bouger d'un outil à l'autre, et donc ça m'embête, mais alors pas du tout quoi. En tout cas, au niveau open source,
Ouais.
ça m'embête pas du tout. Après, si votre code il est vous payez, qu'il est hosté en termes privés sur GitHub et que vous détestez Microsoft pour une raison ou une autre, ça c'est un autre problème.
Non, mais du coup, moi je suis plutôt content. Ça, ils ont l'air de bien insister sur le fait que enfin, GitHub opérera toujours comme il l'a fait.
Alors, bah, bon contre-exemple, donc Oracle qui a racheté Sun, et BEA d'ailleurs, dans lequel il y avait plein de technologies intéressantes. Et donc Oracle, en fait, visiblement, ils sont en train de faire un virage. Hein. On ne sait pas trop où ils vont, mais en tout cas, ils tournent. Et du coup, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles ils sont moins intéressés. Donc leur stratégie, c'est bah, on le met dans l'open source, et puis du coup, il y a d'autres gens qui contribuent dessus, ou alors on le met dans l'open source, et puis on se casse, et puis advienne que pourra. Donc là, visiblement, c'est ce qui est en train de se passer sur comment ça s'appelle? Sur Java Mission Control. Donc je vous rappelais, on avait parlé que ça devenait open source, donc c'était super super excitant. On va de pouvoir utiliser ça qui était que dans des packages payants des JVM Oracle avant. Ça vient de Gyrokit hein, de mémoire. Moi, je me trompe, mais je pense. Voilà. Et du coup, là, en gros, il y a toute l'équipe, sauf trois personnes de Java Mission Control, qui ont été virées. Donc, c'est quelqu'un qui disait que c'est Death by Open Source, la technique d'Oracle. Donc, voilà. C'est un petit peu. Voilà, je sais pas. Là, c'est un petit peu dans l'air. On ne sait pas où est-ce que ces gens-là vont atterrir, s'ils vont continuer à travailler dessus. Parce qu'en fait, il y a plusieurs univers. Soit ils viennent vers une autre boîte, IBM, Oracle, et ils continuent à bosser dans OpenJDK pour développer ce truc-là. Soit ces gens-là, ils se font embaucher par des Twitter, des Facebook, des Google, etc. Et après, soit c'est repartagé, soit ça l'est pas. C'est-à-dire que des fois, c'est des travaux uniquement pour la plateforme. Donc, on sait pas trop à ce niveau-là où est-ce que ça va aller. Sinon, Gradle 4.8 est arrivé. J'ai juste noté la capacité à locker les dépendances. Donc, quand on a des ranges au niveau des dépendances dans nos releases, bah, effectivement, d'un commit à
C'est
l'autre,
risqué.
voilà, ça change, évidemment. Et donc, on peut
Mieux vaut
bloquer
pas.
ça. Donc, comment ça s'appelle? Ruby a ça avec rect, donc les gemfile et
Les
gemfile.lock.
locks, ouais.
Donc là, visiblement, c'est un truc qui est rajouté par Gradle là-dessus. Et puis il y a d'autres choses, j'avoue que je n'ai pas zoomé sur le détail.
Non, tout un tas de petites améliorations par-ci par-là, en tout cas.
Ouais.
Des upgrades et tout ça.
Alors ensuite, on va parler de méthodologie. C'est un article vieux en fait, enfin court d'ailleurs et vieux que je trouve intéressant. Alors c'est à l'époque où il n'y avait pas Internet, donc à l'époque où Sun en fait fournissait les documentations de tous les trucs Sun dans un truc qui s'appelait un CD. Qu'on pouvait lire, et donc c'était en techno web ou pseudo web avec des hyperliens et des machins et des trucs. Et donc les gars, ils avaient bossé, ils avaient bossé, ils avaient bossé, ils avaient réussi à prendre les 16 000 pages de documentation, mettre tout ça sur un CD-ROM, etc. Et ils demandent à un monsieur qui s'appelle Trufter, alors je me rappelle plus l'origine, qui c'est lui, mais bon, visiblement il était connu, pas de moi, désolé. Et donc il leur montre, ah oui, enfin il est assez fort au niveau interface utilisateur et choses comme ça, je crois. Et donc ils étaient contents de tous les efforts qu'ils avaient faits, mais ils trouvaient que la navigation dans la hiérarchie était un petit peu compliquée. Donc ils demandent à ce gars-là de regarder et s'ils avaient des conseils en fait. Et
Ah
le
oui,
gars,
Trufte, ouais, il est super connu dans
ah bon?
la visualisation. C'est lui qui a écrit la Bible sur la visualisation de données.
Ok. Eh ben, tant mieux.
Voilà.
Et donc, il joue un peu avec le truc, et puis il leur dit, alors, il y a le bouquin de docteur machin sur comment, en fait, comment élever un bébé à deux niveaux de hiérarchie pour un des produits les plus compliqués imaginables, c'est-à-dire un
Un
bébé.
bébé.
Vous avez, il y a ça, c'est deux niveaux de hiérarchie, et vous avez huit niveaux de hiérarchie. Donc, ça m'étonne pas que ça soit trop compliqué. Et du coup, ça m'a fait réfléchir parce que effectivement, nous, on a tendance à dire, alors attends, on va bien cadrer les choses. On a tel getting started. Et alors, d'abord, c'est la configuration. Et dans la configuration, il y a le Maven. Et ensuite, il y a le Gradle. Et du coup, ça y est, je suis déjà à trois niveaux d'hiérarchie, alors que j'ai à peine commencé. Et donc, c'est intéressant de se dire, est-ce que la hiérarchie, c'est important? Comme ça, on va très vite là où on veut. Ou est-ce que c'est trop et du coup, ça devient envahissant? Et voilà, ça te fait réfléchir dans comment tu organises ta documentation et tes documents de manière générale. Voilà, donc je trouvais ça. Et puis, il y a un article qui a été sorti sur, je sais pas sur quoi, de la DINSIC. Aucune idée de ce que ça veut dire DINSIC précisément, mais c'est les modalités d'ouverture des codes sources par les agents d'État, les agents publics, pardon, donc ce qu'on appelle historiquement les fonctionnaires et autres. Et du coup, c'est bah, comment est-ce que, en tant qu'agent public, vous pouvez faire du code et contribuer à l'open source, soit ouvrir votre code ou participer à des communautés open source. Et donc, c'est un bouquin de comment vous pouvez faire, voilà les règles, voilà les choses à faire, à pas faire. Alors, j'avoue que j'ai pas lu dans le détail parce que je ne suis pas agent public. Mais c'est intéressant au lieu de se dire, ah, j'ai trop peur ou mon manager va me dire non, etc. Au moins, ils ont un outil sur lequel s'appuyer si les gens sont intéressés à aller contribuer, sur de l'open source. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, d'ailleurs, on sait pas, mais si vous êtes agent public, envoyez-nous un petit tweet, un petit email, un petit message sur la mailing list. On ne sait pas en fait qui nous écoute. Hein. Ça serait rigolo de savoir un peu. Voilà. Sinon, au niveau de quoi d'ailleurs? Au niveau de sécurité, oui, il y a le GitHub qui a sorti le HTTPS pour tous. Donc, les pages github.io étaient déjà sécurisées en HTTPS grâce à Let's Encrypt. Et là, ils ont rajouté ça aussi pour les domaines custom, c'est-à-dire, par exemple, Hibernate, c'est plus le cas, mais binvalidation.org, c'est hébergé sur sur GitHub. Et donc, alors je sais plus si on l'a fait, du coup, mais parce qu'il y a une petite manip, notamment changer les adresses IP dans votre DNS. Mais alors, je vérifie en direct. Eh ben non, on l'a pas fait. Donc il faut qu'on le fasse. Mais maintenant, vous pouvez faire votre code en HTTPS, enfin votre site web en HTTPS si vous l'hébergez sur via GitHub. Donc ça, c'est toujours sympathique. Sinon, il y a une grosse une vulnérabilité au niveau Git qui s'appuie sur les Git Forest. Donc c'est les Git de Git en fait. C'est un Git qui pointe vers d'autres repositories Git. Et Git en fait, il a, vous savez, il y a les hooks qui sont des bouts de code que vous pouvez exécuter quand quelque chose arrive, un pré-commit, post-commit, ce genre de choses. Et ces hooks là, bah évidemment, faut pas qu'ils soient, enfin. Quand vous récupérez un projet Git, faut pas que après par accident ce bout de code là soit exécuté juste parce que vous avez fait un commit par exemple. Donc il y a des sécurités qui sont faites au niveau de Git pour éviter ça, mais par contre dans les forêts en fait il y avait un trou et du coup il se pouvait que dans un des sous-repositories Git en fait on récupère ces bouts de code et qu'on les exécute. C'est-à-dire que un repository Git malicieux qui utiliserait les forêts, vous le récupérez chez vous et en fait au premier commit que vous faites, ça va aller exécuter du code et faire des choses pas très gentilles sur votre machine. Voilà, donc ça c'est
moi,
corrigé.
Moi j'utilise les forêts mais seulement avec ma perceuse.
Pas mal. Pas mal. J'en ai utilisé un hier d'ailleurs.
Ah bon.
Ouais. Voilà, sinon on va passer aux outils de l'épisode. Un petit rappel que on a fait tout un épisode sur les test. Ah mince, comment il appelle ça, Vincent? J'ai un gros trou.
Mutation.
Ouais, les tests, par mutation, voilà.
Par mutation, voilà.
Et quelqu'un sur la mailing list disait, bah oui, moi quand j'injecte des fautes, alors c'est pas tout à fait les tests de mutation, mais quand j'injecte des fautes, donc je choisis à la main les fautes, par exemple, tiens, qu'est-ce qui se passe s'il y a une exception à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe si je passe un nul à ce niveau-là, etc. Eh bien, il utilise Bytemann pour faire ça. Donc, on met un Java agent, on met Bytemann et on peut lui dire, bah, quand tu vois ce truc-là, change le bytecode pour faire autre chose. Voilà, donc c'est un petit outil complémentaire dans cet univers d'amélioration des tests. Sinon, qui n'a jamais écrit de git ignore à la main et oublié un tiers des choses? Donc, il y a un projet qui s'appelle gitignore.io, un site web.
Tapez... J'ai déjà utilisé plusieurs fois ça.
Ouais. Je connaissais pas, ouais. Donc, vous utilisez les langages de programmation que vous voulez, le système d'exploitation que vous avez, l'IDE que vous avez. Donc, Eclipse, voilà. Si je mets Fedora, non pas Fedora, mais Linux peut-être. Non, ça n'existe pas Linux en système d'exploitation. Ok, bon, admettons. comment est-ce qu'ils auraient pu mettre
Ubuntu peut-être? Bah oui, attends, parce que d'habitude, quand je cherche, il ne semblait pas que ça ressemblait à ça. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé. Attends, si tu mets genre, je sais pas, Java ou n'importe.
Bah, Eclipse Java, ça fonctionne, mais le ouais. Linux.
Ce qui me semble qu'on en avait.
Linux, L majuscule. Non, faut le savoir.
Ah, d'accord.
Et donc, vous sélectionnez, c'est un peu comme Spring Boot, start.springboot.io, ou je sais plus. Donc, vous faites ça, vous cliquez sur Create, et puis vous copiez-collez le truc, et ça vous fait tout ça bien. Donc, ça, c'est pas mal.
Attends, est-ce que c'est. Parce que du coup, là, j'ai un doute. Est-ce que c'est basé sur le. Parce que tu sais, sur GitHub, il y a un projet justement GitIgnore, et du coup, je me demande s'il est basé dessus ou pas, parce que en fait, c'est peut-être l'autre que j'ai utilisé, non pas celui-là, qui liste toutes les. Ah, c'est peut-être autre chose en fait. Non, mais je ne le connaissais pas alors celui-là en fait. Parce qu'il y a un autre site où on peut contribuer des GitIgnore pour tout un tas de plateformes, mais ça n'a pas l'air d'être celui-là. Ouais. Et je ne sais pas si l'autre n'était pas... Alors, du coup, je ne me rappelle pas du nom. Mais bon, ouais, pas... c'est sympa comme petit outil. Ah si, parce que par exemple, voilà, il y a Gradle, Grind. Mais par exemple, je ne vois pas Groovy dans les listes.
Puisqu'on te dit que c'est fini. Mais il y a une omerta sur Groovy, on ne peut plus en parler.
C'est marrant.
Voilà, et sinon, on va parler d'un crowdcast qui a été fait par Pierre Carion. Et puis,
C'est un peu méta d'ailleurs
c'est
comme
un peu méta,
podcast.
c'est-à-dire qu'il s'est dit, ah oh là là, un crowdcast, c'est un peu pénible à faire, faut démarrer, faut télécharger un truc pour enregistrer, et puis du coup, c'est un peu peur, et puis on enregistre, et puis du coup, on fait un crowdcast de 5 minutes, alors qu'on avait une question d'une minute à poser, etc. Donc il s'est dit, bah, moi, je vais faire un petit outil. Alors, qui marche pas sur Safari, mais qui marche sur Firefox et Google Chrome, qui permet d'enregistrer un MP3 dans mon navigateur directement, de mettre des petites notes potentiellement, de cliquer envoyer, et ça arrive directement dans la boîte aux lettres des cascodeurs.
C'est de la
Ça, c'est pas
balle.
super. Donc, en fait, bon, pour sa question d'une minute, il a passé un week-end à écrire un outil. Ingénieur typique, tout va bien. Donc merci
Mais
beaucoup
c'est pas mal fait,
Pierre.
hein, comme
Ouais, c'est pas
j'ai
mal
trouvé ça
fait, ouais.
super.
Je l'ai testé, je lui ai
C'est
donné
top.
quelques petits retours. J'ai testé hier, ouais, je lui ai donné quelques petits retours. Donc il y a des choses qu'il va continuer à améliorer. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Alors l'URL est un peu compliquée, mais il faudrait qu'on le mette. Ouais, il faut que je le mette en bas
On le
dans
met
les
en
nous
lien,
contacter là. Voilà, c'est ça.
ouais, ça peut être cool.
Super. Et donc voilà, c'est vraiment simple maintenant de faire un crowdcast. Vous cliquez sur commencer. Vous dites oui, je veux que le micro s'allume. Et puis là, j'ai pas le bon navigateur, donc ça va pas marcher. Attends, je vais le faire devant vous. Alors, Google Chrome. Pouf, je lance Google Chrome. Je tape l'URL. Je clique. Ça démarre. Je clique sur commencer. Je dis oui, je veux utiliser mon micro. Là, j'ai la petite barre graphique des ondes là qui s'affiche. Donc, j'ai testé mon micro. Démarrer l'enregistrement. Ça y est, je commence. Je dis ce que je veux pendant. Alors, c'est limité en temps. Là, c'est 90 secondes. Donc, ça vous
Ça te
permet de vous
force.
concentrer, voilà, sur à parler de l'essentiel. Alors après, si vous voulez plus, ben, soit vous en faites plusieurs et nous on les regroupe pas, soit vous les enregistrez à l'ancienne. On est en train de réfléchir un petit peu avec Pierre là-dessus. Quand vous avez fini, vous cliquez sur Stop Recording et puis là vous mettez votre email, éventuellement votre nom, un petit message pour nous. Vous faites Upload Recording et hop, ça arrive chez nous. Et puis ben, on le passe dans l'épisode d'après, tout simplement. Et puis vous pouvez réessayer si vous n'êtes pas content, vous pouvez réécouter votre enregistrement. Voilà, donc
Bravo.
encore merci à Pierre. Ouais. Et donc, ça sera gratuit pour les cascodeurs à vie,
Ouhou.
en théorie. Donc, enfin, pour même les gens qui écoutent les cascodeurs. Et donc, sa question, c'est lié à une question de débutant. Donc, je l'ai mis dans la rubrique des débutants. Bah, on va écouter Pierre nous poser sa question.
Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierre, j'habite aux États-Unis depuis presque 18 ans maintenant. Je travaille en ce moment pour une startup de la Silicon Valley en remote depuis San Diego. Un peu de contexte, Java fut mon langage de prédilection pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui, je dois bien admettre que je développe quasiment plus en Java. Sauf de temps en temps en mobile pour des modules natifs Android pour React Native. Il y a sans doute un biais anti-Java ici dans la Silicon Valley. Ça remonte sans doute à l'article polémique de Paul Graham en 2004, je crois, sur la cobolisation de Java. Ma question se veut plus positive. Qu'est-ce que vous diriez à un développeur qui hésite sur le choix d'un langage au début d'un projet? Quelles sont selon vous les forces de Java ou de la JVM? De manière plus générale, quels sont les attributs qui font que Java reste un bon choix pour commencer un nouveau projet en 2018? Voilà, c'est tout. Merci à vous et merci pour votre podcast. Au revoir.
Alors déjà, Java et le COBOL, enfin c'est COBOLisé. Alors ça fait des années qu'on le dit, mais ça fait quand même pas mal de versions et Java reste le numéro un en termes de langage là, sur le TIOB. Donc il y a les gens qui annoncent sa mort, mais il y a quand même encore beaucoup beaucoup d'utilisateurs actifs et des nouveaux projets qui sont sur
Ouais, mais qu'est-ce
Java.
que c'est? Il n'y a qu'une dizaine de millions de développeurs. 10 millions, c'est rien.
Voilà, c'est ça. Et alors là, c'est difficile à savoir, mais je pense qu'en nouveau projet, ça reste encore le mastodonte
Ouais.
de loin par rapport à tous les autres.
Mmh.
Donc, en tout cas, en termes de choix de carrière ou de, alors après, bon, vous commencez par Java, vous allez apprendre des nouveaux langages après, c'est pas grave, hein. Je veux dire, ça fait partie de la vie d'un
Apprentissage,
développeur, voilà,
évolution. Ouais.
d'apprendre des nouvelles technos régulièrement, donc. Finalement, si vous vous plantez, c'est vraiment pas grave au niveau technologique. D'accord? Ensuite, Quels sont pour toi, Guillaume, tu as réfléchi un peu du coup à la question sur ce que tu estimes être les forces de Java, tu vois, qu'est-ce qui te ferait choisir Java aujourd'hui par rapport à la myriade de choses qu'on a?
Bah, c'est vrai que, alors, enfin, on est quand même un peu biaisé vu qu'on est issu de cette communauté-là, mais c'est vrai que quelqu'un arrivant sur du Java, il est sûr de quand même plus facilement trouver des projets, un travail, etc. De toute façon, si on prend juste l'aspect, enfin, j'allais dire sécurité de l'emploi, c'est vrai que c'est bon. On pourra difficilement battre Java de ce côté-là. Par contre, ce que je trouve quand même, c'est que depuis, en particulier Java 8, 7, 8, 8, 8, Java, enfin non, ouais, même 7, Java a quand même pas mal évolué et a essayé de rattraper son retard. Et c'est vrai que c'est des langages comme Groovy, Scala et autres qui ont poussé aussi Java à enfin évoluer un peu. Et du coup, je trouve que c'est redevenu un environnement assez sain pour démarrer des nouveaux projets et sans, voilà, sans avoir l'impression de faire du bon vieux COBOL, quoi. Donc voilà, ouais, c'est mon sentiment là-dessus.
Alors moi, si j'avais à dire, donc effectivement Java, il y a toutes ces librairies. En fait, ça, on dit sa communauté, mais alors effectivement, il y a une
C'est
communauté, c'est-à-dire qu'il y
l'écosystème,
a
ouais.
plein de réponses sur Stack Overflow, etc. etc. Alors ça peut être un peu envahissant parce qu'effectivement, il y a plein de choix. Donc ça, c'est un peu le paradoxe of
Paradoxe
choice,
du
hein.
choix, ouais.
Mais tout ce que vous voulez faire, il y a déjà des briques que vous allez pouvoir assembler pour développer vos projets rapidement. Après, il y a d'autres univers où ils sont en train de réinventer la roue. Go, voilà, il y a une ébullition très intéressante avec des nouveaux projets, des machins, des choses qui n'existent pas dans leur univers à eux et donc qui sont en train de réécrire. C'est aussi intéressant hein, dans ces nouveaux univers-là. Toi, quand tu as démarré tes contributions open source, moi, quand j'ai démarré mes contributions open source en Java, c'est pareil, il y avait
C'est
tout le
parce qu'il
middleware.
manquait des choses.
Voilà, il manquait plein de choses. Donc ça, c'est au niveau se faire un nom dans un nouvel univers, c'est vrai que en dehors de Java, ça peut être intéressant. Donc la communauté, les outils, ça c'est vraiment massif. Enfin il y a des langages qui tournent au-dessus de la JVM et donc il y en a pléthore si vous n'êtes pas content sur Java. Comme disait Guillaume, Java 8 a quand même, il est good enough, il a pas mal rattrapé les problèmes qu'on lui reprochait. La JVM, elle reste pour les grosses applis, ça reste quand même le maître. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de que ça soit des grosses boîtes de la Silicon Valley à tout le monde qui utilise la JVM pour des gros workloads et ça marche très, très bien. On a parlé des faiblesses, hein, la consommation mémoire, on a parlé de la lenteur de démarrage, mais on voit aussi que ça travaille, on travaille dessus, enfin, il y a des choses qui travaillent dessus. Donc, c'est un petit peu la force et la faiblesse de Java, c'est que bon, c'est un petit peu lent à se prendre en charge un problème, mais il y a tellement de gens qui tournent autour qu'il y a des choses qui se font et que ça avance. Et après, l'open sourcing, autour de OpenJDK, veut dire que bah y a plus que Oracle qui est là-dessus, donc c'est pas une technologie contrôlée par une seule personne ou plus le cas ou beaucoup moins. Voilà, donc tout ça c'est des choses positives. Et puis voilà, il y a un micro framework par jour, alors why not?
C'est vrai. Remarque, du coup, on revoit une certaine émulation là de nouveautés.
Ouais.
C'est vrai.
Et puis on voit, on est revenu à un équilibre entre langage dynamique, langage fortement typé, statique. Voilà, on voit qu'il y a un intérêt pour les deux et que, notamment sur, ouais, enfin moi je reste quand même un gars du statique fortement typé et que voilà, Java c'est quand même beaucoup dans cette veine-là. Voilà. Donc après, bah faites votre choix.
Après, si
Prenez un choix de
je repense
communautaire,
juste
peut-être un des
à.
micro-frameworks pour démarrer, pour éviter d'être surchargé par toutes ces technologies. Puis
Ouais, c'est
après,
pas
vous
faux,
vous évoluerez doucement, tel outil, tel autre,
ouais. Ouais.
etc.
Après, ce que j'aime bien quand même, c'est le côté plateforme. Donc, ça n'a pas empêché des Groovy, Kotlin ou autres d'émerger, par exemple, niveau langage. Tu vois, le côté plateforme est super intéressant aussi.
Ouais, absolument.
Donc c'est open, c'est ouvert, quoi.
Voilà. Parce qu'en fait, sinon, pour un débutant, tu vois, ça serait quoi ton langage? Parce que Rust, c'est quand même assez avancé, pas forcément pour développer des applis. Enfin, après, ça dépend ce pourquoi on démarre, quoi. Go, c'est pareil, c'est un langage qui pique un peu pour développer des applis un peu normales. Après, tu as tout l'univers, Python, Node.js, évidemment, qui est assez énorme. Ça, c'est probablement le gros compétiteur pour démarrer de zéro, c'est JavaScript ou TypeScript, plus des frameworks Node.js, etc. Mais on vous a dit que Node.js, c'était pourri, maintenant, il fallait voir Deno.
Non, mais c'est vrai, ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend du profil de la personne. Si c'est quelqu'un qui a besoin d'un tout petit peu de back-end, mais qui fait surtout une appli avec du front, peut-être que Node.js, c'est bien finalement. Après, si c'est des gens, tu vois, par exemple, tout ce qui est data scientist, etc., ils utilisent énormément du Python. Donc si aussi c'est quelqu'un qui va être plus pour analyser des données, peut-être que ça peut être plus utile de commencer par Python. Donc
Ouais,
ça
en fait,
dépend
ce
quand
qui se
même
passe, c'est que c'est
pas
pas tant
mal
le
du
langage,
profil
c'est
et
les outils
ouais,
qui font
les
qu'on va vers un
outils.
langage ou un autre.
Et les outils utilisés par une communauté ou un type de profil particulier, quoi.
Ouais.
Donc voilà. Donc c'est une question tellement vaste que c'est difficile de donner une réponse, quoi.
Voilà. Bon, on va passer aux conférences rapidement. Donc, il y a EclipseCon qui est hier et aujourd'hui, qui est à Toulouse. Donc un bisou aux gens d'Eclipse, notamment de Jacques Arthaï. J-Hipster, la conférence qui est le jour de la fête de la musique le 21 juin, de même que DevFest Lille.
J'y serai.
Ah, cool. Vox Luxembourg, ah, bah dis donc, tu vas rester le soir pour des petits concerts ou tu
Non,
rentres?
non, non, non,
D'accord.
je rentre. Je vais
Vox.
faire le concert dans le TGV.
C'est ça. Et s'il y en a.
Ouais, ah oui, oh, c'est vrai que j'ai même pas regardé en plus, t'as raison.
Vox Luxembourg le 22 juin, SunnyTech le 28 et 29 juin, la Jenkins User Conference le 28 juin. T'iras ou pas toi? Tu sais pas?
Jenkins User Conference, bah, du coup, vu que j'ai pas soumis de sujet là cette année, je pense pas, non.
D'accord. T'es invité en tout cas, je sais.
Oui, je suis invité, ouais. Au dîner en particulier.
Jug Summer Camp le 14 septembre, donc ça c'est pour vous mettre sur les chapeaux de roue à la
Yes.
rentrée.
Sympa, Jug Summer Camp.
Ouais. Paris Web les 4, 5 et 6 octobre. DevFest Nantes le 18-19 octobre. Donc là il commence à faire un peu plus froid, il pleut un peu plus. Jenkins
J'espère y aller.
World Europe du 22 au 25 octobre à Nice. Donc là c'est bon, il fera encore à peu près beau. Vox Days Microservice du 29 au 31 octobre par
Antonio.
notre Antonio national,
J'espère qu'il me prendra à celui des
international même
trucs.
d'ailleurs. DevFest Toulouse le 8 novembre 2018.
J'y serai sans doute
Ah,
aussi.
cool, d'accord. Et Codeur en scène le 22 novembre 2018. Donc là, il pleuvra par contre. Mais elle est très bien cette conf.
Mais il y aura Audrey.
Ouais.
Donc ça vaut toutes les pluies du monde.
C'est ça. Il me semblait qu'il y en avait d'autres, pour être très honnête.
Des conférences?
Ouais,
Là, on a déjà une belle liste quand même, hein.
mais il y a des gens qu'on avait annoncés sur la mailing list des Cascodeurs. Laissez-moi regarder rapidos.
Oracle Code One.
Alors, on en a parlé la fois d'avant, celui-là. Donc, EclipseCon, on en a parlé. Le CFP de Codeurs en scène est ouvert. Donc, allez-y. Je crois qu'on a mis un lien dessus.
Où il est tout bleu.
Il est tout bleu. C'est-à-dire que tu n'as pas cliqué dessus, en
Il est
fait.
tout vert, il est tout bleu. Bon.
Ah, d'accord, ok.
Voilà.
Voilà, bah, c'est les deux que j'avais en tête, je pense. Ok. Je l'ai dit, il y
Ok.
avait des trucs intéressants hein, sur Rémi qui montrait comment on pouvait utiliser certaines choses pour. Alors, il utilisait les librairies de logging comme exemple, mais des choses là-dessus. Les releases, la cadence de release de Java et qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est pas gratuit. Voilà, il y a eu un thread intéressant là-dessus. Microservices avec les astreintes, comment est-ce qu'on gère ce genre de choses. Voilà, il y a quelques
Des
sujets
bons
assez
thèmes.
intéressants hein, sur la mailing list. Après, on n'est pas payé si vous venez, hein, donc c'est vraiment faites ce que vous voulez. Voilà, bah écoutez, merci de nous avoir suivis et puis à la prochaine pour un épisode dont on n'a absolument aucune idée parce que tout part en sucette en ce moment au niveau planning des cascodeurs.
Gros bisous tout le monde.
Voilà, bisous,
À
ciao.
bientôt. Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr.